Vous savez, en août prochain, cela fera 5 ans que nous sommes en France, ma famille. Et j'ai beaucoup réfléchi à notre vie ici et à la culture ces derniers temps. Et je me rends compte à quel point je comprends mieux le mode de vie français après m'être mise dans des situations embarrassantes. Et par exemple, je sais désormais qu'il faut dire bonjour à l'employé de Superview avant de lui demander où se trouve le lait. Et je sais que quand quelqu'un m'invite chez lui pour un café ou un goûter ou un apéro ou apéro dînatoir ou dîner, il n'est pas nécessaire de lui demander à quelle heure, car chacun de ces moments a son créneau dédié entre 14h et 20h. Et je suis maintenant convaincu que même les Français commencent parfois la bise par la mauvaise joue. Mais une culture ne se résume pas à la gastronomie et aux règles de politesse. Une culture englobe tout cela et bien plus encore. Une culture, c'est la somme de nos pensées et de nos comportements, ainsi que les attentes que nous avons vis-à-vis des pensées et des comportements des autres. La science de l'anthropologie culturelle tente de classer dans les petites boîtes bien ordonnées certains aspects de la façon dont on pense, dont on mange, dont on réagit quand quelqu'un nous sourit dans la rue, ou encore de notre conception de la famille ou des finances. Mais comme nous le savons, la culture n'est pas si facile à quantifier et nous réalisons souvent qu'il existe certains aspects de notre mode de vie qui n'ont pas vraiment de sens mais que nous continuons à suivre parce que c'est comme ça. Et en réfléchissant à la manière dont je me suis adapté à ma nouvelle culture, et en me demandant si je comprends vraiment ce que vous pensez et attendez, je me suis rendu compte que ces pensées et ces attentes sont souvent en contradiction flagrante avec les miennes. Si je devais prendre ma propre façon de penser et de me comporter comme norme pour tout le monde, je risquerais facilement de tomber dans le piège d'attribuer une valeur morale à ma propre culture et de juger celle des autres comme immorale ou même erronée. Mais il y a une chose que la plupart d'entre nous omettent de prendre en compte. Quel que soit l'endroit où vous êtes né, ou la personne qui vous a élevé, il existe effectivement une culture qui est objectivement meilleure. Elle est moralement supérieure et juste. Et bien sûr, c'est la culture du Christ. Elle est la synthèse de tous les enseignements, tous les exemples et commandements que l'on trouve dans la Bible. La culture chrétienne, contrairement à nos propres cultures terrestres, est fondée sur la parole révélée de Dieu et n'est pas enracinée dans des traditions éphémères ou les prescriptions de gouvernement temporaire. En termes simples, le Créateur de l'univers vous a dit comment il veut que vous croyiez et que vous vous comportiez. Depuis le début, je n'ai cessé de chercher à mieux comprendre à la fois la culture française et la mienne, afin de mieux m'adapter à ma communauté et d'évangéliser et d'exercer mon ministère plus efficacement. Mais au fil des années, j'ai pris conscience que plutôt que de m'adapter à la culture française ou de renoncer à ma propre culture américaine, je devais avant tout m'efforcer de respecter le dessein de Dieu concernant nos croyances et nos comportements. Aux Romains, dans la Bible, en Romains 12, l'une des cultures, la culture des Romains, l'une des cultures les plus perverses, démoniaques et hédonistes de tous les temps, le Saint-Esprit les exhorte à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et aussi de ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'être complètement transformé et remplacé par l'homme nouveau. En d'autres termes, mourir et renaître en tant que personne qui plaît à Dieu. La culture chrétienne n'est pas simplement un ajout à notre propre mode de vie, mais c'est un renouvellement complet. Aujourd'hui, je voudrais débuter un message en deux parties que nous terminerons lorsque je serai de nouveau parmi vous le 31 de mai. Et ce message portera sur ce que Dieu veut que nous sachions et que nous fassions, ce qu'il exige de nous en matière de foi et de conduite. Ouvrez donc vos Bibles à l'un des passages les plus connus de l'Ancien Testament, Deutéronome 6. Deutéronome 6. Et vous avez peut-être entendu prêcher ce passage récemment, ou même mémoriser Deutéronome 6, versets 4 à 9, appelé le chemin. Mais quoi qu'il en soit, Deutéronome est le livre idéal à lire et relire, car il rappelle au peuple de Dieu quelles sont ses attentes concernant sa foi et sa conduite. Donc, je veux lire aujourd'hui Deutéronome 6, versets 1 à 15. Et la prochaine fois, on va lire le reste, mais aujourd'hui, Deutéronome 6, versets 1 à 15. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Voilà la parole de Dieu. Il y a, je crois, trois points très simples que nous aideront à comprendre les attentes culturelles envers le peuple de Dieu. Premièrement, connaître la loi de Dieu. Deuxième, respecter la loi de Dieu, ou observer la loi de Dieu. Et troisièmement, enseigner la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur ce que nous devons savoir et croire. Et la prochaine fois, nous mettrons cette foi en pratique et découvrirons ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons enseigner aux autres. Mais si cette mention de la loi et des règles vous met déjà mal à l'aise en tant que chrétien du Nouveau Testament, laissez-moi vous rassurer. Bien que nous ne devions jamais être antinomistes, c'est-à-dire rejeter ou mépriser ouvertement les commandements clairs de Dieu, nous ne sommes pas soumis au même fardeau de la loi que l'était le peuple de Dieu avant la crucifixion de Christ. Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 1, dit ceci à propos de la loi de Dieu. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ce qui s'approche ainsi de Dieu. La loi de Dieu a été présentée à son peuple comme un miroir afin de nous montrer la nature pécheresse de notre cœur et notre incapacité à obéir parfaitement à ses commandements. Jésus est le seul à avoir jamais satisfait à toutes les exigences. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous souffrons plus sous le fardeau de la loi, mais nous bénéficions plutôt de l'obéissance de Christ. Et quand nous reconnaissons notre incapacité à nous sauver nous-mêmes en obéissant à une liste de règles, et que nous nous jetons à la miséricorde de Dieu en nous repentant de nos péchés et en ne comptant que sur Jésus pour notre salut, alors c'est comme si les accomplissements de Christ devenaient les nôtres. Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs incapables de répondre à ses attentes, mais comme des co-héritiers de son Fils bien-aimé qui obéit parfaitement. Alors, plutôt que de revoir en détail tous les rites lévitiques ou de vous interroger pour voir si vous avez mémorisé les 10 commandements, je pense que la manière la plus efficace d'apprendre ce que Dieu attend de nous concernant sa loi est de voir ce que Christ en dit. Donc, ouvrez à nouveau vos Bibles au chapitre 22 de Matthieu. Chapitre 22 de Matthieu, verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est presque les mêmes paroles que celles de Moïse dans Deutéronome 6, mot pour mot. C'est ainsi que Jésus résume toute la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Ce sont là les deux aspects de la loi de Dieu. la manière dont les hommes doivent interagir avec Dieu et la manière dont ils doivent interagir les uns avec les autres. Ce que nous croyons au sujet de Dieu et comment nous obéissons à Dieu. Et Jésus savait bien sûr que les scribes essayaient de le piéger ou de le pousser à commettre une erreur, mais ils savaient toujours retourner leurs propres questions contre eux pour révéler leur manque de véritable compréhension. La raison pour laquelle ce commandement qui consiste à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence est au cœur de la loi, c'est que toute notre foi et toute notre obéissance découlent de notre amour pour Dieu. Jésus dit ici à son auditoire et à nous, par extension, que sans un véritable amour pour Dieu, on ne peut pas croire en Dieu. Sans aimer le Seigneur, on ne peut lui obéir. Et si cette affirmation vous amène aujourd'hui à réfléchir à votre propre foi en Dieu, et que vous êtes tenté de vous demander si vous l'aimez suffisamment, laissez-moi une fois de plus vous rassurer. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est une bonne nouvelle. Il y a une causalité dans l'amour de Dieu. Notre amour n'est pas simplement une réponse, mais l'amour que Dieu nous porte nous conduit ou même nous oblige à l'aimer en retour. Tout cela est l'œuvre de la grâce. Même l'amour que nous portons à Dieu vient de Dieu. Donc, rendons grâce à Dieu de nous donner les moyens de l'aimer, de croire en lui et de lui obéir. Et nous n'avons pas besoin de susciter nous-mêmes des sentiments, ni d'essayer de suivre les règles à la lettre pour lui plaire. Peut-être vous savez, mais aux États-Unis, il existe à New York de grandes communautés juives qui vivent isolées du reste de la société. Et leur vie religieuse se caractérise par le respect des règles. Mais en réalité, cela revient plutôt à essayer d'être plus malin que Dieu. Ces communautés ont des règles telles que les femmes ne doivent pas montrer leurs cheveux en public. Alors les femmes se font fabriquer des perruques à partir de leurs propres cheveux pour les porter par-dessus leur voile. Ou encore, le jour du sabbat, quand ils ne sont pas autorisés à porter des objets à l'extérieur de leur maison, ils installent un fil de fer tout autour du quartier pour que techniquement cela compte comme l'intérieur. Et est-ce que vous pensez que ce comportement montre que ces personnes aiment vraiment le Seigneur qu'elles prétendent servir avec toutes ces façons de contourner les règles et les préceptes de leur religion? Vous laissez-moi poser la question autrement. Pouvons-nous vraiment prétendre aimer Dieu si notre christianisme se manifeste par le fait de nous approcher le plus possible du péché sans franchir la ligne? La réponse évidente est non. Notre relation avec Dieu se définit par notre amour pour lui, qui nous conduit à notre foi et à notre obéissance. Donc, si Dieu vous a aimé et que vous l'aimez, si vous souhaitiez en savoir plus sur lui et que vous êtes poussé à croire en la vérité, alors la question suivante qui se pose est évidente. Que dois-je croire exactement à propos de Dieu? Et je pense que notre passage du Deutéronome 6, notre passage aujourd'hui, nous éclaire un peu à ce sujet. Donc premièrement, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tout d'abord, nous devons croire que le Dieu de l'univers se distingue de tous les autres soi-disant dieux. Il est unique en puissance. Il est unique en majesté, en gloire, et il est unique en splendeur. Il n'y a personne d'autre comme lui. Tous les autres dieux de la terre sont tenus de se soumettre à lui. Les autres êtres créés, que les hommes, au fil des millénaires, ont tenté d'élever au rang d'idole, ne sont rien en comparaison. Satan, notre plus grand ennemi, a tenté de s'égaler à Dieu et a été à juste titre chassé du ciel et condamné à une punition éternelle. Écoute, Israël, le Dieu qui t'a créé et qui t'a fait sortir de l'esclavage est le seul qui mérite d'être adoré. C'est là un élément essentiel de la foi. Et c'est le fondement même du christianisme, que l'Éternel est un. Il n'y a pas de dieu rivaux. Il n'y a pas de guerre entre le bien et le mal dans laquelle notre Dieu risquerait de perdre. Il est unique. Il est un. Et à présent, certains groupes ont détourné ce passage pour affirmer que Dieu n'est en réalité pas trinitaire, ou Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes en un seul Dieu. Mais ce n'est pas là le christianisme. Ce n'est ni l'objet du rappel que Moïse adresse au peuple d'Israël. Il est unique et lui seul est digne de votre adoration. Et deuxièmement, nous devons croire que notre Seigneur est la source de toute bonne chose et qu'il tient toujours ses promesses. Verset 10 à 12 de Deutéronome 6. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Les Israélites avaient souffert pendant des centaines d'années en tant qu'esclaves dans un pays qui n'était pas le leur. Ils avaient été témoins de miracles incroyables avant leur exode d'Égypte. Ils avaient été guidés à travers le désert pendant 40 ans par la nuée et la colonne de feu. Ils avaient été nourris chaque matin par la main même de Dieu. Et voilà qu'ils se tenaient désormais aux portes de la terre promise, contemplant ce qui allait devenir leur nouvelle patrie. Et Moïse leur dit, « Lorsque vous entrerez en Canaan et que vous prendrez possession de ce qui vous est donné, souvenez-vous que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Vous n'avez pas bâti ces villes et vous n'avez pas planté ces vignes. Mais, heureusement, la bénédiction est à vous parce que votre Dieu prend soin de vous. » Si vous êtes chrétien, j'en suis sûr que vous vous souvenez de nombreuses occasions où Dieu vous a donné des preuves tangibles qu'il est celui qui pourvoit à vos besoins. Et en réalité, même si nous ne sommes pas les anciens Israélites, nous sommes tous bénéficiaires de bénédictions qui n'ont rien à voir avec nos performances dans la vie. L'évangile de Jésus-Christ en est la preuve. Le juste est mort pour les injustes. Dieu, incarné en homme, a souffert et a reçu le châtiment que nous méritons en récompense de notre péché. Et pourtant, grâce à son sacrifice, nous pouvons non seulement être pardonnés de nos péchés, mais aussi être appelés fils et filles du Dieu souverain et co-héritier avec Christ, bénéficiaires de la bénédiction qu'il a gagnée. C'est en Christ seul que nous trouvons des bénédictions infinies et imméritées. Il est la maison remplie de nombreuses bonnes choses. Il est le puits qui ne tarit jamais. Et il est la vigne que nous n'avons pas plantée. Christ est la terre promise. Il est notre attente et notre espérance. Les Israélites attendaient les bénédictions matérielles qu'ils étaient sur le point d'hériter. Et il était impératif de se rappeler au fil de générations que c'était le Seigneur qui leur avait donné tout cela. Et nous devons considérer la croix comme notre héritage et la preuve de la provision de Dieu. Encore, il s'agit là d'une doctrine chrétienne fondamentale. Et je sais que je ne vous apprends rien de nouveau, mais c'est justement le but de ce chapitre Deutéronome 6, c'est un rappel. Et après, nous devons donc savoir et croire que Dieu est le seul à mériter la louange et l'adoration, qu'il est le seul à pouvoir tenir ses promesses et subvenir à nos besoins. Et nous allons maintenant voir qu'il est d'une terreur unique. Verset 13 de notre texte. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. » Vous ne vous rallerez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol. Ce n'est pas une idée réconfortante, mais elle est inévitable. Et tout comme la nature unique de Dieu et sa providence, sa nature terrifiante est un aspect incontournable de son caractère dont nous devons tenir compte. Parfois, nous essayons d'édulcorer cela en expliquant que la crainte du Seigneur n'est rien d'autre que du respect. Et cette définition est correcte, mais elle est incomplète. Par exemple, je respecte mon chef, mon superviseur, mais je ne le compare pas à d'autres divinités qui font l'objet d'un culte. Ou bien je respecte le président de la République, mais je ne crains pas que Macron se mette en colère contre moi et me détruise complètement. Dans ce passage, Moïse nous rappelle une fois de plus la primauté et l'autorité de Dieu. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul peut pourvoir à tous vos besoins. Et il ne laissera pas l'idolâtrie impunie. C'est là un rappel qui fait peur. Mais, comme j'ai dit, il est essentiel. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est intelligence, en Proverbe chapitre 9. Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne le craignons pas. Donc, chacune de ces caractéristiques uniques de notre Seigneur est étroitement liée aux autres. Et j'oserais même dire qu'il s'agit là d'un dogme incontestable de la foi chrétienne. C'est ainsi que Dieu se décrit lui-même. Et si nous n'adorons pas le Dieu de la Bible, alors nous n'adorons pas Dieu de tout. Nous devons maintenant, inévitablement, répondre à la question suivante. En quoi tout cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Vous croyez peut-être tous, depuis des décennies, à tout ce dont nous avons parlé sans jamais le remettre en question, mais en quelle mesure cela devrait influencer notre vie quotidienne? Eh bien, c'est là le renouveau culturel dont nous avons parlé précédemment. Croire à chacune de ces vérités concernant Dieu devrait transformer notre façon de vivre. Nous devons vivre délibérément en accord avec nos convictions. Ainsi, la première de nos nouvelles habitudes culturelles, fondée sur le fait que nous savons que nous suivons le seul vrai Dieu et que nous devons nous définir comme un peuple à la fois humble et inébranlable face au bouleversement du monde qui nous entoure. Psaume 46, versets 7 à 8 dit « Les nations grandes, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dessous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » S'il est vrai que Dieu est le seul être qui mérite notre attention et notre affection, alors les chrétiens ne devraient pas passer leur temps à s'inquiéter de ce qui pourrait nous arriver. L'angoisse suscitée par les gros titres des journaux, ou même l'inquiétude concernant les résultats scolaires de nos enfants, nous amène à nous concentrer sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Et c'est là de l'idolâtrie. Pardon. Et cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents ou que nous ne nous intéressons pas à l'actualité, mais le fait de se focaliser sur ses propres problèmes, qu'ils soient grands ou petits, montre au monde que nous croyons entre la chose la plus importante qui soit. Mais, à la réflexion de Jésus, à l'image de Jésus, les chrétiens doivent au contraire faire preuve d'humilité et de se considérer comme moins importants que les autres. Nous sommes libres, sachant que le Seigneur est au centre de l'univers. Il tient entre ses mains tous les événements de tous les temps et nous ne pouvons pas usurper sa place de Dieu en nous inquiétant. Cette certitude nous permet de vivre dans l'humilité. Ensuite, le fait de savoir que Dieu est notre seule source de subsistance nous permet de ne pas être prisonniers de nos désirs matériels. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Et cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent être démunis et pauvres pour être fidèles, ni qu'on ne peut pas avoir envie de nouvelles chaussures, mais cette soif insatiable qui anime une grande partie du monde, cette envie d'accueillir toujours plus et plus, ne fait pas partie de la culture chrétienne. Encore une fois, aux États-Unis, on a une expression, keeping up with the Joneses, ou faire comme les Jones. Je ne sais pas s'il y a une expression semblable en français, mais ce n'est pas une bonne chose, mais c'est un phénomène courant. Les voisins se livrent à une compétition incessante pour remplir leur jardin et leur maison avec des objets les plus récents et les plus chers. Si Jones s'achète une nouvelle voiture, je m'achète une voiture plus grande. Si Jones offre une nouvelle robe à sa femme, j'offre à la mienne un nouveau collier en diamant. C'est un cycle sans fin où on veut toujours plus et où on n'est jamais satisfait. Et ce n'est pas sans raison que la prière du Notre Père, de Jésus, nous invite à prier chaque jour pour nos besoins quotidiens. Nous vivons dans l'espoir que Dieu répondra à tous nos besoins tout comme il a fait pour les Israélites dans le désert. Nous devrions également être un peuple d'une générosité hors du commun. Parce que le fait d'avoir confiance en la source de notre subsistance signifie que nous n'avons pas besoin de la garder jalousement. Et enfin, en tant que personne qui craigne Dieu et reconnaisse qu'il est capable à la fois d'une grande bonté et d'une grande colère, nous nous distinguons par notre état de préparation. Vous avez peut-être remarqué que les gens ne se préoccupent pas beaucoup des questions éternelles. La majeure partie de notre société est obsédée par les préoccupations éphémères de cette vie et s'accroche à la jeunesse, à la richesse et au plaisir, comme si les choses, si ces choses pouvaient apporter une véritable joie. Nous vivons manifestement dans l'une des cultures les plus athées que le monde ait jamais connues. Et le manque de religiosité de nos compatriotes se traduit par un désintérêt total pour tout ce qui se passe après les quelques courtes années que nous passons ici-bas. En tant que chrétiens, nous nous distinguons par le fait que nous nous préparons sans cesse à la vie qui nous attend après celle-ci et que nous attendons le retour du Christ. Nos préoccupations dépassent le cadre de cette existence temporaire et nous menons notre vie en gardant à l'esprit l'éternité. Notre façon de penser et de nous comporter découle directement de cette préparation. Le prophète Malachi, il évoque le jour de l'Éternel, grand et redoutable. Ce moment à la fois joyeux et terrifiant, où le jugement dernier de Dieu s'accomplira. Ceux d'entre nous qui seront prêts trouveront miséricorde dans l'expiation du Christ sur la croix. Mais ceux qui n'auront pas cru à l'évangile du Christ seront jugés. Notre culture, nos pensées, nos comportements et nos attentes envers les autres sont certainement influencés par cette connaissance de Dieu. Nous évangélisons, nous essayons de convaincre les autres de la vérité, nous pleurons lorsque les personnes qui nous aimons rejettent le Dieu que nous aimons, et nous nous réjouissons lorsque quelqu'un professe sa foi en Christ. La crainte du Seigneur fait de nous un peuple unique. Finalement, si vous croyez que Jésus est le sauveur de tout pécheur qui se repent et le suit, alors vous êtes différent. Et vous vous démarquerez, quelle que soit la culture dans laquelle vous vivez. Ainsi, cette semaine, alors que vous menez votre vie quotidienne, souvenez-vous que vous, chrétiens, faites partie d'un peuple différent de celui parmi lequel nous vivons. Nous ne sommes pas simplement français ou américains, ou brésiliens, ukrainiens, togolais, mais on attend de nous que nous pensions et agissions différemment de ce que nos cultures d'origine exigeraient de nous. Nous devons nous distinguer par notre humilité, notre générosité et notre préparation au retour de Christ et la vie à venir. Amen. Amen.